Bonjour tout le monde. Un petit peu plus de treble dans ma voix. J'ai l'impression d'être dans un tonneau. Une impression. Merci d'être là. C'est à mon tour de saluer le départ de notre frère Amar Djabala. Comme vous le savez, il a eu récemment une promotion à être dans la présence de Dieu. Donc, son esprit, du moins, est déjà au stade de glorification en attendant la résurrection des corps. Je le crois. Je le crois intimement. Mes condoléances à sa famille, à ses amis. Pasteur Jeff aussi m'avait demandé de partager un peu sur ce que je vivais avec le Seigneur, parce que dernièrement, j'ai fait beaucoup de déplacements. Et il y a 2 mois, j'avais vraiment le privilège d'accompagner un groupe missionnaire. C'était un groupe missionnaire qui provenait d'une église de Montréal, mais qui s'appelle l'Église Philadelphie. Et puis, on était allé en mission à l'île Saint-Martin. Et il faisait 42 degrés, pas moins 42. C'est béni lorsque tu as l'occasion de participer dans une activité où ce que le Seigneur est déjà à l'œuvre, où ce que le Seigneur est déjà en opération. Donc, c'était comme une porte ouverte pour moi pour être témoin de ce que le Seigneur fait et de ce que le Seigneur va faire. Ce que je retiens vraiment des gens de Saint-Martin, ceux qui ont reçu le Seigneur après la prédication de la parole, ils sont venus devant Dieu avec des larmes, des cris de détresse. C'était des désespérés qui sont approchés du Seigneur comme il est notre seul espoir, les désespérés de la vie. Et les gens n'avaient aucune gêne d'exprimer leurs besoins. Ils reconnaissaient qu'ils n'étaient plus capables de lutter par leur propre force contre le péché. Ils ont exprimé leur plus grand besoin, celui d'être pardonnés. Ils l'ont fait dans des cris de détresse. Je vous dis, ça vous pognait le cœur. Il faudrait que vous soyez là pour vraiment tout comprendre ce que je veux vous dire. Ça vous sort le cœur de la poitrine lorsque tu vois ça. Récemment aussi, il y a 2 semaines, j'ai eu une autre belle opportunité avec où est-ce qu'il est? Oh, ils sont là. Ok. Avec Normand et son épouse, on a été à l'assemblée chrétienne de l'église de Kanasatake. Et là aussi, il y a un faible reste, mais précieux aux yeux de Dieu. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'encouragement. De toute façon, nous tous, nous aurons besoin un jour ou l'autre de soutien et d'encouragement. Puis je pense que la meilleure manière de les soutenir, c'est une simple présence, une simple visite va leur donner du courage, va leur donner du cœur. Bénis le nom du Seigneur pour ton implication avec ton épouse, parce que Normand et Carole ont un ministère d'encouragement pour ces gens. Et ils sont des Barnabas pour ces gens. Vous savez que Barnabas, le fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. Et puis, je bénis le nom du Seigneur lorsque le Seigneur met à cœur de tels fardeaux dans le cœur de leurs enfants. Et la semaine dernière, accompagné de Max Maurice, je ne sais pas si Max est là ce matin, oui. On a été au camp des Bouleaux. C'est vraiment un endroit magnifique. Vraiment, j'entre dans ces lieux et ces lieux m'invitent à la prière, à la méditation de la parole. J'ai fait plusieurs marches avec le Seigneur. Et les organisateurs, on voit qu'ils font tout en leur pouvoir, non seulement que les gens soient bien, mais que les gens passent un bon temps avec le Seigneur. Ils croient que le Seigneur peut transformer des cœurs dans le ministère qu'ils accomplissent. Et il le fait. Et on avait du bon temps aussi avec les enfants. Tu te souviens, Max? Moi, les enfants m'appelaient Anthony Davis. Ça, c'est le joueur étoile de basketball qui joue avec LeBron James. Donc, c'est un petit fleuron, ça flatte. Max, les enfants l'appelaient Kobe Bryant. Et c'est pour ça que je vous demande de garder Max en prière pour qu'il ne sente pas d'orgueil, parce qu'à un moment donné, il pourrait se prendre vraiment pour Kobe Bryant. J'en sais quelque chose, parce que depuis que les enfants m'ont appelé Anthony Davis, j'ai l'impression que ma vie a changé. Mais je suis vite revenu à la réalité parce que mon portefeuille, lui, n'a pas changé. Donc... J'ai entendu un cri de louange à ma gauche. Donc ce matin, le Seigneur me donne la lourde tâche de nourrir cette foule. Et je n'ai que deux pains dans ma boîte à lunch. Donc, c'est lui qui vous nourrira finalement. Et on est dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous encourage vraiment à lire et relire tout le livre. Bon, Philippiens, ok, merci. De toute façon, il y a une corrélation entre Éphésiens et Philippiens. Paul était en prison lorsqu'il écrivait ses épîtres à ces deux... à ces deux assemblées. Donc, je vous l'encourage de le lire et de le relire et de prier le Saint-Esprit qu'il nous ouvre les yeux de notre entendement afin qu'on puisse de mieux en mieux comprendre sa volonté, la discerner et appliquer dans notre vie ce qu'il veut nous faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et je remercie le Seigneur aussi pour l'enseignant de la semaine dernière, Emmanuel, qui nous a imagé le contexte historique. Le Saint-Esprit lui a mis des mots pour nous faire sentir quel était l'état d'âme de Paul lorsqu'il écrivait cette lettre. J'aimerais faire un petit retour parce qu'il y a quelque temps, on avait étudié ensemble l'Épître aux Galates. J'aimerais faire un petit retour sur ce que nos enseignants nous avaient montré, c'est pour faire un contraste avec l'Épître aux Philippiens. Donc, dans l'Épître aux Galates, dans cette épître, Paul s'affirme comme apôtre du Seigneur. Il va défendre son apostolat. Et la raison est fort simple, parce que Paul est appelé à aller corriger des problèmes doctrinaux. Et pour ça, ça prend une autorité de le faire. Paul est un apôtre et il dit que ce n'est pas par un homme, c'est-à-dire Dieu n'a pas passé par un homme pour me confirmer mon apostolat. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a confirmé. Donc, la crédibilité de Paul est en jeu parce qu'il y a des personnes qui vont dire, « Ben, Pierre, je le connais, lui. J'ai déjà entendu sa prédication. Beaucoup d'âmes se sont converties. Jean, j'ai lu ses lettres. J'ai lu son évangile. Jacques, j'ai entendu parler comme apôtre. Mais Paul, je ne te connais pas. T'es qui, toi ? C'est qui, Paul? Donc, Paul doit montrer sa crédibilité, il doit le démontrer. Parce que Paul, en tant qu'apôtre, n'oubliez pas, un apôtre a la même autorité qu'un prophète de l'Ancien Testament. Un apôtre a le droit d'apporter de nouvelles révélations, d'apporter de nouveaux éclaircissements sur ce que les prophètes avaient déjà dit, il peut apporter de nouvelles interprétations et les interprétations de Paul n'entraient pas dans le moule des interprétations du judaïsme. Et ça ne faisait pas l'affaire des judaïques et des judaïsants. Puis c'était la même chose pour le Seigneur. Le Seigneur, son interprétation ne faisait pas l'affaire de ces gens-là. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur dit, « Il a été dit, voici votre interprétation, mais moi, je vous dis. » Il a été interprété comme suit, « Mais moi, voici mon interprétation. » Et ils l'ont rejeté parce que ça ne rentrait pas dans le moule. Paul vit la même situation lorsqu'il était aux Galates. En Galatie, aux Galates, c'est les habitants de la Galatie, excusez-moi. Un petit abus de verbe. Donc, le contraste avec les Philippiens, c'est que Paul ne se présente pas comme apôtre dans cette épître. Il se présente comme serviteur, en grec « doulos », qui veut dire « esclave du Seigneur », esclave volontaire en passant. Et il y a deux raisons qu'on peut voir à ça. La première, c'est que Paul avait une intimité, une relation tissée serrée avec l'assemblée de Philippe. Donc l'assemblée de Philippe reconnaissait l'apostolat de Paul. Il savait que Paul était un envoyé de Dieu pour eux, un ambassadeur de Christ. Il recevait les paroles de Paul comme étant paroles de Dieu. C'est cette autorité-là qu'un apôtre il a. Ses écrits sont considérés comme paroles du Seigneur, intentions du Seigneur. Les Philippiens le recevaient comme ça. Et la deuxième chose, il se présente comme serviteur, c'est pour dire, ce qui m'arrive, ce n'est pas le lot des apôtres, ce n'est pas le lot de l'élitisme chrétien, ce n'est pas le lot des pasteurs, ce n'est pas le lot des évangélistes, c'est le lot à nous tous, puisque nous sommes tous serviteurs, du moins si on veut servir. Ce que je vis présentement, eh bien, vous pouvez vivre la même chose tôt ou tard dans votre vie. Parce que s'il le fait, s'il montre, c'est comme si c'est parce que je suis apôtre, eh bien, on pourrait dire, ça ne nous concerne pas, moi, je suis un chrétien ordinaire, je ne suis pas à ce niveau-là. Non, il dit, non. Si tu es serviteur de Dieu, ce que je vis, eh bien, tu le vis aussi. La situation dans laquelle que Paul s'est trouvé en captivité, eh bien, ça va contribuer au progrès de l'Évangile. Pourquoi? Parce que là, il y a une communauté chrétienne qui va prendre la relève. Les Philippiens ont comme un mandat d'aller évangéliser, d'aller propager l'Évangile de Jésus-Christ. Philippe, c'est une assemblée mature. C'est une assemblée qui croit dans l'amour. C'est une assemblée qui croit dans la connaissance de Dieu. Et Paul leur dit, eh bien, que ça augmente, que cela augmente encore et encore. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, c'est faite une fois pour toutes, c'est accompli. Mais l'œuvre de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, c'est une œuvre progressive. Il y a du progrès qui se fait, que ça augmente. Donc, Philippe, c'est une assemblée mature, même s'il y a des faux frères parmi eux qui vont prêcher avec un esprit de dispute. Mais ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ont fait preuve de maturité. On aurait pu croire, parce que Philippe, c'est une assemblée, lorsque je dis Philippe, je parle de la ville et non pas du disciple. L'assemblée de Philippe, ils sont en feu pour évangéliser. Les opposants à l'évangile auraient pu comprendre que le fait que Paul soit en captivité, ça va mettre de l'eau sur leur feu. Au contraire. C'est du gaz que ça a mis sur leur feu. Et l'Évangile, tout comme à Éphèse, bien la captivité de Paul a contribué au progrès de l'Évangile. Dieu s'est glorifié à travers cela. C'est facile la question qu'on va se relancer. Nous, sommes-nous prêts à être en captivité, à être en prison pour le progrès de l'Évangile? Sommes-nous prêts à perdre notre confort, richesse, pour le progrès de l'Évangile? C'est un autre acabit, l'apôtre Paul. Vraiment. Donc, l'assemblée de Philippe continue de grandir à travers cela. Et un indice, je pourrais dire, je ne pourrais pas dire la principale raison. Parce que des fois, on peut se demander, est-ce que nous sommes en santé spirituelle? Est-ce que nous sommes en train de croître comme Église? On doit se poser cette question-là. Est-ce que moi, en tant que pasteur ou en tant qu'un fidèle dans l'Église, en tant que serviteur, je contribue à la croissance de mon assemblée? Sur quels critères on peut définir qu'il y a croissance? Il y a quelqu'un qui a déjà dit cela. Il a dit que on n'évalue pas la croissance d'une église au nombre de fidèles que cette église peut attirer dans ses patelins. On l'évalue par rapport au nombre de missionnaires qu'il envoie sur le terrain. Et Philippe est engagé, l'assemblée de Philippe est engagée sur le terrain de bataille pour propager l'Évangile de Jésus-Christ. Dans cet épître, on nous montre que le principal critère de la croissance d'une église, ça ne dépend même pas de son côté administratif, si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça dépend si les gens s'aiment d'un amour authentique les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il parle de croître dans l'amour. Si cet amour est véritable, si on développe un amour sincère les uns pour les autres, ça c'est un signe de croissance extraordinaire. Parce que, soyons honnêtes, en venant ici, qui nous aimions plus? Nos amis. Ben ouais, moi aussi, c'est mes chums que j'aimais. Mais je ne suis pas appelé à aimer mes chums dans l'assemblée. Je suis appelé à tous vous aimer. Et c'est ça, Philippe. Malgré la présence des faux frères, les gens de Philippe prenaient soin de Paul qui était en prison. Ils pouvaient voyait à tous les besoins de Paul. Paul les remerciait aussi. Paul remerciait Épaphrodite qui est un combattant avec Paul pour la foi. Il citait des noms. Paul se soucie de la croissance de cette église. Il se soucie d'eux. Les gens de Philippe aimaient Paul, mais Paul les aimait encore davantage. Il les réconforte, il les console. Il leur donne de l'espoir. Il est un pasteur pour eux. Il n'est pas seulement un apôtre, il est un formateur pour leur âme. Et les gens de Philippe étaient reconnaissants envers Paul sur ce point-là. Vous savez, lorsque j'étais à l'île Saint-Martin, j'ai rencontré un pasteur qui avait 50 ans de ministère. Puis, je lui ai posé une question pour pouvoir bénéficier de son expérience. Je lui ai dit, « Pasteur, quel a été ton plus grand défi dans la foi? Quelle a été l'épreuve? C'était ça passe ou ça casse? Parce que je veux m'édifier de toi. » La réponse que le pasteur va me donner m'a jeté à terre. Écoute ce qu'il me dit. Il me dit, Pierre, mon plus grand défi, c'était de m'élever contre la doctrine et les hérésies des faux frères qui viennent à l'Église tout en les servant et les aimant de tout mon cœur. Je dis, waouh! Je m'élève contre leurs hérésies, mais je continue à les servir. J'agis en fonction de leur plus grand bien. Et là, je dis, j'ai des croûtes à manger. Je n'ai pas l'affaire. J'aimerais dire aux pasteurs, moi aussi, je suis comme ça. Mais ce n'est pas vrai, je n'aime pas les faux frères. Mais c'était ça. Je dois travailler là-dessus. En passant, je ne suis pas digne d'être là où je suis, là. Vraiment, vraiment pas. Si quelqu'un, pour une cause d'indignité, me dit de débarquer sur la chair, je vais le faire sur le champ. Je suis conscient que je ne suis pas digne d'être ici. Mais c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Et dans cette grâce-là, le Seigneur me dit, travaille sur l'amour envers les faux frères. Toute assemblée a des faux frères. Ça ne sert à rien pour un prédicateur de dire, levez la main les faux frères de l'assemblée. Parce que les faux frères ne se reconnaissent pas. Leurs actions, ils pensent que c'est vraiment pour Dieu qu'ils le font. Ils vont se reconnaître seulement si Dieu touche leur cœur. Si Dieu met en lumière l'état réel de leur motivation. C'est là qu'ils vont se reconnaître. Il y avait une petite histoire. Il y avait une réunion où il y avait des personnes. Puis chaque personne se présentait et il disait qu'est-ce qu'il faisait. Et puis arrivé à la dernière personne, il se présente, il dit, « Moi, je suis un menteur professionnel. » Tous les gens reculent. « Oh !» Lui, il répond, « Mais pourquoi vous reculez? C'est la première fois que je vous dis la vérité. » Les faux frères, ils ne se reconnaissent pas. Et ils sont animés par un zèle de dispute, un zèle de dissension. Ils viennent sur des choses, ils reviennent constamment sur les choses du passé. Il n'y a pas un passé ici qui est correct. Mon passé, c'est du, je ne sais pas quel mot que je pourrais dire, de l'herbe, bon. C'est quoi que c'est du? La boue, voilà. Il n'y a personne qui a un passé correct. Il faut laisser le passé dans le passé, là où ce qu'il est, et aller de l'avant. Il y a des choses qui sont à la portée de notre foi. On en tirera des leçons du passé, mais on laissera là où ce qu'il est. Paul, il a une joie en prison. Et la joie du Seigneur, comme Néhémie dit, c'est ma force. Donc, Paul était fortifié par la joie du Seigneur. Paul, il a une passion. Sa passion, c'est le Christ. Sa raison de vivre, c'est le Christ. Sa passion, c'est l'évangile du Christ. Pour bien comprendre la passion de Paul, il a plusieurs appellations pour le mot évangile. Et je les ai notées, je les ai découpées pour vous, pour voir toute la dimension de ce que c'est que l'évangile pour l'apôtre Paul. Je demanderai à... Oui, c'est affiché. Premièrement, il l'appelle l'évangile de Dieu. Ensuite, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la paix, l'évangile de la puissance, l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, l'évangile de la liberté et l'évangile de la gloire. Je vais les commenter brièvement parce qu'il y a de la force dans ces mots-là, mais brièvement. Tu peux les garder sur l'écran. C'est mieux pour les gens de voir ça que de me voir. L'évangile de Dieu. OK. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de l'évangile. La bonne nouvelle, ça vient de lui. Vous savez, le mot « bonne nouvelle », c'est une expression d'abord anthropologique avant de devenir une expression théologique. Vous pouvez remettre l'image pour ceux qui sont sur le net. Bonne nouvelle, cette expression existait avant le Christ. Lorsqu'il y avait une guerre et la guerre était finie, il y avait un vainqueur, on envoyait un guerrier aller répandre, dire « la guerre est finie, évangélion, évangélion, bonne nouvelle, on a gagné, la guerre est finie ». C'était ça l'expression. Et maintenant, Dieu prend une expression humaine, déjà dans la tradition, pour nous faire comprendre que nous sommes dans une guerre contre le péché. Nous sommes dans une guerre contre les forces démoniaques. Et Dieu va envoyer son guerrier pour combattre. Et c'est Dieu lui-même. On l'appelle l'évangile de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui annonce en premier son évangile. Ce ne sont pas les évangélistes. C'est Dieu lui-même qui annonce son évangile. L'évangile de Dieu se trouve dans Genèse 3:15. La postérité de la femme brisera la tête du serpent. Voici l'évangile de Dieu. C'est lui qui l'annonce aux pécheurs perdus. C'est son évangile. L'évangile de Jésus-Christ aussi, pourquoi? Parce que l'expiation de Jésus-Christ est au cœur même du plan de Dieu. C'est l'essentiel même du plan de Dieu. On l'appelle aussi l'évangile de la paix, parce que c'est la paix du Seigneur. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Faut-il croire que le monde nous offre aussi un genre de paix? Mais la paix que je vous donne, n'importe quelle circonstance, vos cœurs ne seront pas troublés. Et c'est ce que Paul vit en prison. Son cœur n'est pas troublé. C'est l'évangile de la paix. L'évangile de la puissance, nous connaissons tous Romains 1, verset 6. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est l'évangile de la puissance pour le salut de quiconque croit. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, de quoi l'apôtre Paul pourrait avoir honte? Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce qu'il y a un élément honteux dans l'évangile pour que l'apôtre Paul puisse faire une telle déclaration? Voici pourquoi il le fait. L'homme, naturellement, n'aime pas lorsqu'il y a un message, lorsqu'il y a un message qui expose sa culpabilité. Avant d'être l'évangile de la grâce, l'évangile d'abord expose notre péché. Et les hommes qui entendent de tels messagers comme ça, ils n'aiment pas ces messagers-là. Ils les haïssent, comme on dit en bon québécois. Ils les haïssent. Et ils doivent trouver un motif de honte dans l'évangile pour ne pas la recevoir. Mais Paul dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il y a l'évangile de la grâce. Notre pasteur ici nous a baignés là-dedans, il nous a trempés là-dedans, il nous a nettoyés là-dedans. Savez-vous pourquoi pasteur Jeff a fait ça pour nous? Parce qu'il est conscient de son péché. Oui, c'est un grand pécheur qui peut parler de la grâce. C'est un grand pécheur qui va faire la promotion de la grâce. Quelqu'un qui n'est pas un grand pécheur, lui, va faire la promotion de sa justice propre. Il va montrer comment il est bon. Et c'est ça le ministère de David, après avoir péché, après avoir vu l'énormité de ce qu'il fait, il dit, je reçois mon pardon, je reprends aussi, je reprends mon ministère. Et quel est son ministère? J'enseignerai, un ministère d'enseignement, vous le dites, j'enseignerai aux pécheurs, aux transgresseurs de la loi. Lui qui vient juste de transgresser la loi. Maintenant, j'ai quelque chose en commun. Nous sommes deux transgresseurs normands, donc on peut se parler, on peut se comprendre. C'est cette dimension-là, la grâce. La grâce a tellement une dimension, parce que des fois, on nous a reproché d'en avoir trop parlé. Savez-vous quel est le dernier verset de la parole de Dieu? Le dernier, le tout dernier verset. Il doit avoir du poids, ce verset-là. Cette Bible qui est fantastique, il faut avoir une cerise sur le sondé pour terminer, n'est-ce pas? Le verset, c'est « Que la grâce du Seigneur soit sur vous. » Et voilà. Merci d'être rapide sur le piton, parce que je ne lui avais pas dit. Remets-moi mon affaire. Parce que j'ai besoin de guide pour ne pas me perdre. Nous l'avons vu, c'est l'évangile de la liberté en Galates. Et le dernier, et non pas le moindre, l'évangile de la gloire. Parce que la créature avait terni la réputation de Dieu en désobéissant, en tombant dans le péché. La créature a profané la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a eu comme une tache dessus et Dieu ne peut pas le supporter. Dieu ne peut pas supporter cet affront. L'évangile est là pour le rétablissement de la gloire de Dieu. Et c'est ça l'enjeu de tous les enjeux, même plus que notre salut. C'est la gloire de Dieu qui était à l'enjeu. Et l'Évangile vient rétablir la gloire de Dieu dans toute sa dimension parce que Dieu va faire connaître sa grâce. J'aurais pu aussi parler de l'appellation de Matthieu qui parle de l'Évangile du royaume, qui n'est pas comme l'Évangile de la grâce. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, en tant que roi, il a été rejeté. Et il y aura l'établissement de son royaume. C'est l'Évangile aussi du royaume. Vous lirez Matthieu, il vous donnera plus d'informations et de formations et d'enseignements, je devrais mieux dire, là-dessus. Paul, il accepte tout avec reconnaissance. C'est à cause de cet évangile qu'il est prêt à mourir. Il accepte tout, tout avec reconnaissance. Il va dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous deux fois, pourquoi? De la situation qu'il est, peut-être que les gens de Philippe auraient quelques réticences à se réjouir. Parce que si un de nos pasteurs, un de nos anciens, est mis en prison ou tombe malade, je n'aurais pas tellement le goût à faire un party. Paul dit non, 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 réjouissez-vous. Vous savez, la joie et le bonheur pour les gens du monde, c'est la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le bonheur dépend des circonstances extérieures. J'ai une nouvelle job, plus rémunérative, je suis heureux. Je viens de m'acheter une nouvelle maison, je suis heureux. Ma femme ne m'a pas encore quitté, je suis heureux, etc., etc. Ah bon. Mais la joie, et je retiens l'expression de Gabriel Lallier, cette expression-là m'a béni. La joie, c'est une activité du Seigneur en nous. Ça ne dépend pas des choses extérieures. En nous. Et ainsi, on le voit dans les Saintes Écritures. Et le psalmiste qui va dire, l'Éternel est mon berger, la présence de ce berger-là, me donne la grâce et le bonheur. Mais il va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce est la présence de ce berger, l'Éternel, et le bonheur, eh bien, je ne manque de rien. C'est quand même assez dans un monde où même les millionnaires sentent qu'ils ont des manques. Lui, il dit, je ne manque de rien. Et puis, c'est un verbe aoriste, c'est-à-dire, non seulement je ne manque de rien, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers. C'est tous des éléments extérieurs. Et le Seigneur, dans Jean 10 et 15, si on peut voir, Jean 15, versets 10 et 11, si ma mémoire est fidèle, il va dire, si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie du Seigneur, c'est une activité qu'il fait en nous. C'est Dieu à l'œuvre en nous. Et les circonstances extérieures ne peuvent pas enlever cette joie-là. Et c'est pour ça que Paul était en joie. Où remettez ce verset? Il me vient une lumière maintenant pour l'édification du peuple de Dieu. Écoutez-moi. Non, reste là. Oui. Il dit, si vous gardez mes commandements, l'expression est au pluriel. De même que moi, j'ai gardé les commandements. L'expression est toujours au pluriel. Poursuivez avec l'autre verset. Mais il dit, c'est ici. Poursuivez avec l'autre verset. Il dit, c'est ici, je vous donne mon commandement. Et l'expression est au singulier. Qu'est-ce que je peux comprendre là-dessus? Que l'amour est la fondation de tous les commandements. Tous les commandements trouvent leur source dans un commandement qui est l'amour. Si vous aimez vos frères, vous aimez Dieu, vous êtes en train d'obéir à tous les commandements de Dieu. Parce que c'est ça qui va vous motiver. C'est le motif de mon obéissance, c'est son amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Mais maintenant, pourquoi Paul, dans ma nervosité d'avant-message, avait oublié de vous donner un verset, mais je vais le finir tantôt avec ça. Il dit... Je vous pose la question. Paul est prêt à tout. Il est prêt à mourir pour l'Évangile. Il est prêt à souffrir. En passant, on ne voit pas Paul qui est en train de supplier ses bourreaux d'arrêter la persécution. Et aucun autre disciple était en train de supplier, « S'il vous plaît, arrêtez ça pour moi. Je vais faire une petite négociation de ma foi, une petite compromission. » Non, du tout. Jamais. Mais pourquoi Paul était prêt à souffrir? Vous connaissez la réponse. Mais des fois, une question peut nous amener à faire les liens plus forts. Je vous pose la question, la première personne qui pose le doigt sur le piton. Pourquoi Paul était prêt à souffrir? Pourquoi il était prêt à même être battu 40 coups moins 1? C'est-à-dire, on l'a laissé au seuil de la mort. Pourquoi? Je m'attendais que la réponse soit plus rapide, là. Hein? Oui, Madame Linda. Oui, la mort est un gain, ça c'est une réalité. Son amour pour Jésus-Christ, on l'a vu tantôt. Mais il y a quelque chose presque hors norme ici, qu'un gars soit prêt à tout subir comme ça, parce que je mets dans la peau de Paul... J'ai l'impression, si j'étais à sa place, je craquerais. Pas parce que je n'aime pas le Seigneur, je craquerais. Oui, mon frère Gontier, j'ai vu lever la main. Non, c'était l'ombre de ta main. OK. Oui. Il l'a vu. Oui, j'accepte cette réponse, mais ce n'est pas la mienne. Je veux que vous trouviez la mienne. Oui, et savent. Oui, ça c'est sûr. Mais nous, on a cette dimension, mais je ne pense pas que nous tous, on serait prêts à vivre tout ce que Paul vit. Écoute, on le laisse au seuil de la mort à trois occasions. Oui. Oui, ça se rapproche. Oui, garde ta réponse, un morceau de robot pour toi. Oui, et Sonève. Amen, vraiment. Je vais vous donner un petit indice pour que vous ayez ma réponse, parce que je veux que ce soit ma réponse qui gagne. Oui, Nicolas. Oui, c'est un amour hors norme. On est d'accord avec cela, Madame Patrice. Oui, toutes vos réponses sont bonnes. Il n'y a aucune réponse qui n'est pas bonne. Mais je prends, je pense que c'est Denis, non? Pour dernière réponse, je te le laisse. Oui, oui. Oui, c'est ça. J'avais dit en dernier, mais comme la femme était en dernière dans la création, oui. Maintenant, la réponse se trouve dans Acte 9, verset 15. Souvenez d'Ananias qui va même quasiment faire une plainte déguisée devant le Seigneur, devant Dieu. Il dit, comme s'il veut dire au Seigneur, tu ne connais pas cet homme? Il a fait trembler, il nous persécute. Il est muni. Regardez ce que Dieu va lui dire. Acte 9, verset 15. C'est, oui. Il dit, mais le Seigneur lui dit à Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. On continue. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'apôtre Paul ne s'est pas engagé dans le chemin des persécutions. Ce n'était pas des accidents pour lui. Dieu lui avait montré tout ce qu'il allait vivre. C'est-à-dire l'engagement d'entrer dans son ministère, il s'engageait volontairement aussi d'aller marcher sur un chemin de douleur, sur un chemin de persécution, sur un chemin de difficulté, comme son maître l'a fait. Dieu lui avait montré tout cela, la prison, Dieu lui avait montré ça. Être battu trois fois, Dieu lui avait tout montré ça. Toutes les persécutions orales. Parce que la persécution qui fait le plus mal, c'est lorsque la petite langue dit ce qu'il y a sur le cœur. Ça, c'est, des fois, c'est comme un couteau tranchant. Il fait face à tout cela. Dieu lui avait montré. Le verset que j'avais pour vous, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas été dans une étude textuelle, mot à mot ou verset par verset. Je vous ai présenté plus une situation globale. Donc, dans ma nervosité, j'ai oublié de vous donner le verset sur lequel j'étais motivé lorsque j'étudiais cela. C'est Philippiens 4, verset 19. C'est un tout petit verset, mais il vaut son pesant d'or. Et je le lis. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, Je vais vous parler d'un commentaire extraordinaire que j'ai lu sur ce passage. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Paulson. Lui, il va comparer le passage qu'on vient de lire à quelqu'un qui va à la banque pour échanger un chèque. Je le redis. Il le compare, vous ne voyez pas encore la comparaison. Ça, c'est le fun, ça. Il le compare à quelqu'un qui va à la banque pour encaisser un chèque. On remet l'écriture. Je vais le commenter maintenant. Et mon Dieu, ça c'est le banquier, pourvoira à tous vos besoins, ça c'est le montant du chèque. Selon sa richesse, c'est le capital de la banque. Avec gloire, c'est le siège social de cette banque. En Jésus-Christ, c'est la signature en bas du chèque. S'il n'y a pas cette signature, le chèque n'est pas valide. Voulez-vous avoir votre chèque? Qui veut son chèque? Cependant, il y a une condition. Ce chèque est donné dans un échange d'amour. La condition se trouve juste dans le verset précédent où ce que Paul était en train de rendre grâce pour les gens de Philippiens qui ont pris soin de lui, qui ont pourvu à ce qu'il manque de rien, absolument de rien du tout. C'est comme s'il disait à Paul, « Prélasse-toi en prison, nous on s'occupe de toi. » Ils l'ont soutenu financièrement dans tous les aspects moraux, spirituels. Ils ont pris soin de leur pasteur, de leur formateur, de leur apôtre. N'oubliez pas, c'est l'apôtre des païens, c'est notre apôtre. Ils ont pris soin de lui. Et maintenant, dans cet échange d'amour, ils ne l'ont pas fait par devoir religieux, ils l'ont fait par amour pour leur pasteur. Et c'est là que Paul va le dire, « Puisque vous avez tout fait ça pour moi, puisque vous avez pourvu à tous mes besoins, maintenant, voici la répartie. Dieu pourvoira à tous vos besoins, mais selon la richesse de sa gloire. » C'est dans un échange qu'on peut avoir cela. Est-ce que nous sommes prêts à déverser un amour les uns pour les autres? N'importe quel frère, n'importe quelle sœur, même si elle n'était pas ma chum, même si elle n'était pas mon chum, est-ce qu'on est prêt à avoir un amour inconditionnel les uns pour les autres? Si on l'a, on peut aller à la banque, encaisser notre chèque. Juste avant de finir, je vous demande de garder en prière toute l'équipe de Paul Tremblay. Il m'a accordé l'honneur de l'accompagner en Afrique. Que le Seigneur vraiment nous... C'est une œuvre où le Seigneur est déjà à l'œuvre, la mission en Afrique. On me donne l'opportunité aussi de participer. Je suis vraiment honoré. Que le Seigneur nous garde tous, que le Seigneur nous donne le discernement des lieux, que le Seigneur nous donne le langage, parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi le langage, et que le Seigneur vraiment nous fasse voir sa gloire lorsqu'on s'en ira à peu près dans 3 semaines, on s'en va en Afrique. Gardez-nous en prière. Merci. Amen.